France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Selon l'écrivain indien Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, la beauté est la cour que Dieu fait à notre cœur. Écrivain, mais aussi compositeur, peintre, philosophe, immense figure qui incarnait l'Inde. Elle était à l'honneur, cette figure, le 24 avril 1962 sur France 3 nationale.
Ici Paris, radiodiffusion télévision française, longueur d'onde 312 mètres. Le service des émissions culturelles présente des extraits du Collège des ondes et de Plaisir de la lecture. Le Collège des ondes présente Nouvelles du monde entier. Messieurs Alain Bosquet et Harold Portnoy vous parlent aujourd'hui de Rabindranath Tagore. Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie-Française, vous lira ensuite des extraits du roman de Tagore, Le Naufrage.
Le profane, ou l'intellectuel occidental, et c'est à peu près la même chose, dans le cas de l'Inde, se fait de l'Inde une image curieuse. Il voit l'Inde comme un ensemble qui remonte à 15 ou 20 siècles et où les hommes vivent d'une sorte d'émerveillement dans le sacrifice de soi. Sacrifice du corps, pauvreté, négation de la terre et aussi un appel au miracle quotidien, c'est-à-dire à toutes les énigmes curieuses qui viennent se greffer sur cette pauvreté. La lévitation, les fakirs, le commerce avec le mystère, tout cela fait de l'Inde un pays non seulement mystérieux, mais il faut bien le dire, un pays dont nous n'avons jamais tout à fait sondé le mystère. Il y a aussi dans l'attitude de l'hindou, qu'il soit un hindou du 5e siècle d'avant Jésus-Christ, ou qu'il soit un hindou de l'Inde de M. Nehru, une sorte d'attente mystique, un sacrifice de l'espace et du temps, et, comme on a pu le dire, avec une extraordinaire hibernation de l'âme. À la faveur de cet état de choses corporelle, de cet état de choses qui est de la mystique sans cesse changeante, il y a eu dans l'Inde un phénomène qui remonte à plus de 25 siècles et qui est sans doute unique dans l'histoire de littérature, c'est la véritable invention par l'Inde de ce que nous appelons aujourd'hui la spéculation ou l'abstraction. Bien sûr, il y a eu d'autres littératures qui se sont interrogées sur l'être, qui se sont interrogées sur des notions philosophiques, il y en a eu dans le Talmud, mais c'est l'Inde qui s'en est fait une spécialité, la spécialité de toutes les formes du néant, de toutes les formes de l'être et du non-être. De sorte qu'aujourd'hui, relisant des œuvres extrêmement anciennes qui remontent à 25 ou même à 30 siècles, nous nous demandons si les hindous n'ont pas été, dans le sens le plus moderne du terme, les premiers philosophes de l'histoire, les premiers philosophes de la définition abstraite de l'homme. Et on ne peut mieux, je pense, donner une très courte introduction à cette âme hindoue qu'en se référant aux hymnes spéculatifs du Veda, écrits entre le 14e et le 10e siècle avant notre ère, par exemple ce texte de cosmogonie qui a l'air, il faut bien le dire, comme une espèce de variante à la fois de Jean-Paul Sartre dans sa pensée et de Heidegger dans son système. Ni le non-être n'existait alors, ni l'être. Il n'existait l'espace aérien, ni le firmament au-delà. Qu'est-ce qui se mouvait puissamment? Où? Sous la garde de qui? Était-ce l'eau insondablement profonde? Il n'existait en ce temps ni mort ni non-mort. Il n'y avait de signe distinctif pour la nuit ou le jour. L'un respirait de son propre élan, sans qu'il ait de souffle. En dehors de cela, il n'existait rien d'autre. À l'origine, les ténèbres étaient cachées par les ténèbres. Cet univers n'était qu'onde indistincte. Alors, par la puissance de l'ardeur, l'un prit naissance, principe vide et recouvert de vacuité. Le désir en fut le développement originel, désir qui a été la semence première de la conscience. Enquêtant en eux-mêmes, les poètes surent découvrir, par leur réflexion, le lien de l'être dans le non-être. Leur corde était tendue en transversale. Qu'est-ce qui était au-dessous? Qu'est-ce qui était au-dessus? Il y avait des donneurs de semences, il y avait des pouvoirs, l'élan spontané était en bas, le don de soi était en haut.
Dans cette optique, il n'est pas exagéré de dire que l'Inde entière a reconnu en Rabindranath Tagore un de ses porte-paroles les plus importants. Il suffit du reste d'ouvrir n'importe lequel de ses ouvrages pour constater combien il est nourri des écritures sacrées hindoues, combien sont réels pour lui les personnages de la mythologie hindoue ainsi que les traditions millénaires. On peut dire que son enseignement, ou mieux son message, est parallèle à celui de tous ses grands compatriotes. Ramakrishna, Vivekananda, Gandhi, Sri Aurobindo. Il est impossible, évidemment, de montrer en quelques minutes tous les aspects du génie de Tagore. Bornons-nous à nous poser cette question: quel est le centre de son œuvre? En quoi incarne-t-il le plus l'Inde? L'amour est la réponse à cette double et même question. Rabindranath Tagore incarne l'Inde parce qu'il incarne l'amour. Cet amour, inséparable du renoncement, qui est l'aboutissement de la vie spirituelle et la grande libération que recherchent tous les hindous. Cet amour, ce n'est évidemment pas l'amour passionnel, égoïste, thème inépuisable de la littérature occidentale, mais, et je cite Tagore, l'amour qui est maître de soi, l'amour qui, tout en prenant l'objet aimé pour centre, diffuse sa douce grâce sur l'univers entier. L'homme, dit-il ailleurs, n'est un esclave ni de lui-même ni du monde, c'est un amant, et c'est dans le parfait amour qu'il découvre la liberté de son être. Qu'est-ce que l'amour pour Tagore? Son premier objet, c'est la beauté. La beauté, écrit-il, c'est la cour que Dieu fait à notre cœur. Elle est inséparable de l'harmonie dont elle est un aspect. Elle est aussi indissolublement liée à la vérité profonde des choses. Cette beauté, l'homme ne peut l'exprimer qu'en se soumettant à une discipline rigoureuse dans son art et dans sa vie. La recherche de la beauté, Tagore l'a tentée dans la plupart des domaines de l'art, car pour l'hindou, tous les modes d'expression se courbent dans le même sens et la poésie se chante, et le chant se danse. Le second grand aspect de l'amour chez Tagore, et qui pour nous est plus difficile à saisir, c'est son amour de l'homme. Car pour lui, l'homme vrai n'a pas de limite. Il rejoint Dieu et la nature. La personnalité infinie de l'homme comprend l'univers, disait Tagore. Et il ajoutait en corollaire, l'homme a son origine et sa fin en Dieu, c'est-à-dire en l'infini. S'il a oublié sa profonde unité avec Dieu, il ne l'a pas perdue. et cet homme vrai, il appartient à l'homme dont nous avons conscience de le réaliser, de le retrouver en soi, quels que soient nos défauts et nos imperfections. Ainsi s'exprime Rabindranath Tagore. Quant au sentiment d'union avec la nature, il n'a pas sa racine dans l'esthétique ou la morale, mais dans une vérité métaphysique. C'est là du reste une des différences profondes entre l'Inde et l'Occident. Je cite Tagore à nouveau. Pour l'occidental, tout ce qui est inférieur dans l'échelle des êtres est tout simplement la nature, et tout ce qui porte l'estampille de la perfection intellectuelle ou morale est humain. C'est comme si l'on mettait dans deux catégories distinctes la fleur et le bouton, et qu'on en attribuait la beauté à deux principes antinomiques et différents. Dans l'Inde, on enjoint aux hommes d'être pleinement conscients, dans leur corps et dans leur âme, de leur étroite parenté avec tout ce qui les entoure. La faculté de l'homme ne consiste pas en une faculté de possession, mais en une faculté d'union. Ainsi, pour Tagore, l'amour est un univers intérieur qui résonne dans l'âme de l'homme avec les couleurs de la beauté, de la nature, et dont l'écho final est Dieu. Nous allons maintenant entendre des extraits du Naufrage, qui n'est pas à proprement parler une nouvelle, mais plutôt un roman. Il faut dire qu'aux Indes, les termes de roman, de nouvelle, de conte n'ont pas le sens défini qu'ils ont chez nous. Les personnages du Naufrage, tout de tendresse et d'élan, trouvent leur amour, le perdent, le cherchent, dans la douleur ou l'acceptation de l'épreuve. Ramesh s'est marié et, selon la coutume, il n'a pas vu sa femme. Tout de suite après la cérémonie, ils se sont embarqués pour regagner leur pays et ont fait naufrage. Ramesh se retrouve sur une plage aux côtés de Kamala, jeune femme qui n'est pas son épouse. Il le comprend de suite, mais elle l'ignore. Ramesh n'osera pas dire la vérité à cette jeune fille tout à fait seule au monde. Cette jeune fille, du reste, s'attache de plus en plus à lui. Ils partent en voyage ensemble. Ramesh est sombre. Il aime une jeune étudiante, mais il ne peut abandonner la douce Kamala.
Le minuscule croissant de la lune disparut derrière les bambous. Après avoir éteint les lumières sur le pont, l'équipage était descendu pour manger et dormir. Les passagers de troisième classe s'étaient laissés glisser par-dessus bord et barbotaient vers le rivage pour y préparer le repas du soir. Sur la terre ferme, les lumières d'une rue de village brillaient au loin parmi les arbres. La force du courant faisait grincer les amarres et de temps en temps communiquait une sorte de vibration au bateau. Dans ce décor étranger, sous l'immense ciel nocturne, Ramesh s'exerçait à résoudre le problème si angoissant que lui présentait sa conscience. Il allait sans dire qu'il lui fallait abandonner ou Kamala ou Emnalini et qu'aucun compromis n'était possible qui lui permît de les garder toutes deux dans sa vie. La route qu'indiquait le devoir n'était pas douteuse non plus. Emnalini avait d'autres alternatives, elle pouvait chasser son souvenir, accorder sa main à un autre soupirant. Pour elle, il n'était pas l'unique voie de salut. Tandis que Kamala, s'il la rejetait, se trouverait nu et dépouillé dans le monde. Et cependant, tant l'homme est un être égoïste, il n'éprouvait aucune consolation à s'imaginer une Emnalini qui l'aurait oublié, qui se serait créé un autre avenir et trouverait son bonheur ailleurs qu'en lui. Au contraire, cette pensée ne faisait qu'exacerber son amour. La tête dans les mains, il entendit un chacal pleurer dans la distance, réveillant les chiens du village qui se mirent à aboyer. Il leva la tête à ce tapage et vit Kamala, non loin de lui dans les ténèbres. Il se leva. Pas encore au lit, Kamala. Il se fait tard. J'y vais. J'ai transporté mes matelas dans la cabine de tribord. Mais vous devriez bien vous coucher aussi. Elle n'osait avouer que l'histoire du revenant lui faisait redouter la solitude. Mais son pas traînant, tandis qu'elle s'éloignait, témoignait assez de sa répugnance à s'en aller seule. Ramesh eut un remords. « N'ayez pas peur, Kamala, lui cria-t-il. Ma cabine est près de la vôtre et je laisserai ouverte la porte de communication. »« Et qui dit que j'ai peur ? » fit-elle d'un ton de défi. il se dit que jamais il ne pourrait l'abandonner. Ainsi donc, pensa-t-il, adieu M. Nalini. C'est là ma décision finale, car je ne veux plus tergiverser. Mais son imagination lui montrait tout ce qu'il perdait, et ses pensées lui devinrent insupportables. Seule la vue du ciel sombre put le persuader que sa honte et sa douleur n'étaient pas des choses infinies par rapport au temps et à l'espace. Ces étoiles qui brillaient au-dessus de sa tête étaient des mondes éternels que la pitoyable petite histoire de son amour n'atteindrait jamais. Pendant combien de nuits d'automne, en tout semblables à celle-ci, le fleuve coulerait-il sous le firmament entre des bancs de sable et des roseaux murmurants, non loin de paisibles villages endormis, après que ces eaux, brûlées sur le bûcher et réduites en cendres, se seraient mélangées à la terre endurante et que son esprit tourmenté aurait trouvé la paix pour toujours. Il faisait noir encore quand Kamala se réveilla, et regardant autour d'elle, se rendit compte qu'elle était seule. Il lui fallut une minute pour se rappeler où elle était. Sautant du lit, elle ouvrit sa porte. Une frêle vapeur blanche reposait sur l'eau tranquille. Une pâleur grisâtre imprégnait la nuit et une faible teinte d'aurore se devinait dans le ciel derrière les arbres de la berge. Comme elle regardait, les premières voiles blanches des barques de pêche commencèrent à tacheter l'eau, tranquille comme une coulée d'acier bruni. Sans qu'elle pût deviner la cause de sa peine, son cœur lui faisait sourdement mal. Pourquoi l'aspect de ce matin brumeux était-il si désolé? D'où venaient ces sanglots qui lui montaient à la gorge? Pourquoi revivait-elle les tristesses de sa jeune existence? La veille, elle avait oublié qu'elle était orpheline, qu'elle n'avait plus rien au monde que son époux. Qu'était-il arrivé pour qu'elle sentît ainsi sa solitude? Ramesh ne suffisait-il pas à la protéger? Pourquoi l'inimitié de l'univers et sa propre insignifiance se faisait-il à présent si lourdement sentir? Tandis qu'elle s'attardait à cette porte ouverte, le fleuve se mit à scintiller comme l'or en fusion. L'équipage reprit la manœuvre et les machines leurs palpitations. Le grincement des chaînes, le craquement du cabestan, tout cela réveilla, bien avant l'heure accoutumée, les marmots du village qui vinrent gambader au bord de l'eau. Le bruit réveilla également Ramesh, qui parut à la porte de sa cabine, à la recherche de Kamala. Elle tressaillit en le voyant. Et bien qu'elle fût déjà discrètement voilée, elle essaya de mieux cacher son visage. Il lui demanda si elle avait fait ses ablutions, et la question était assez innocente en elle-même. Il semblait qu'il n'y eût rien là pour la fâcher, pourtant, visiblement, elle en fut mécontente. Il continuait « Vous feriez bien de ne pas tarder, tout le monde va se lever ». Sans répondre, elle tira ses vêtements de la chaise sur laquelle elle les avait déposés et se dirigea vers la salle de bain. Qu'il se fût levé tôt afin de la conseiller pour sa toilette, voilà qui lui paraissait non seulement inutile, mais encore impertinent. Elle se rendait bien compte qu'il avait élevé une barrière dans leur rapport et que jamais il n'empiétait du côté de la familiarité. Pourquoi fallait-il qu'elle se sentît plus qu'embarrassée en sa présence? Après le bain, ce fut, en perspective, le travail de la journée. Sortant ses clés de l'extrémité de son sari où elle les gardait, elle ouvrit la malle qui contenait ses vêtements, et aussitôt la petite cassette que Ramesh lui avait donnée le jour précédent se présenta à sa vue. Quelle joie elle avait eue de cette possession! Quel sentiment d'autorité et d'indépendance l'avait animée, tandis qu'elle enfermait la boîte comme un trésor précieux, et aujourd'hui, son plaisir à manier la jolie chose avait disparu. Après tout, cela appartenait à Ramesh, non à elle. Elle n'en était pas la seule propriétaire et n'en eût pu disposer sans rien dire. Elle finit par n'y plus voir qu'une responsabilité. « Vous voilà bien tranquille, » fit Ramesh qui entrait. « Auriez-vous trouvé un revenant dans votre malle ?»« J'y ai trouvé ceci qui vous appartient, » dit-elle en lui tendant la cassette. « Que voulez-vous que j'en fasse ? Quand il vous faudra quelque chose, vous n'aurez qu'à me le dire, et je l'enverrai chercher pour vous. « Mais il vous faudra aussi bien des choses. Je n'ai pas besoin d'argent, » répondit-elle, laconique. Ramesh sourit. « Peu de gens diraient autant. » Sans plus rien ajouter, elle déposa la cassette sur le plancher. Est-ce parce que je ne vous ai pas dit la conclusion de l'histoire que vous avez l'air fâché ? Je ne suis pas fâché, nia-t-elle, les yeux fixés à terre. Je ne vous croirai pas si vous ne gardez pas cette boîte. Je ne vois pas le rapport. Cela vous appartient, et c'est à vous d'en avoir soin. Mais ce n'est pas à moi. Et ne savez-vous pas que ceux qui reprennent leur présent reviennent sur terre après leur mort ? Croyez-vous que j'y aurai du plaisir ? Cette idée la chatouilla, et elle ne put retenir son envie de rire. Non, sans doute, mais est-ce vrai ? Je ne l'ai jamais entendu dire. C'était la fin des hostilités. Il n'y a, lui fit remarquer Ramesh, qu'une seule manière de savoir si c'est vrai, et c'est de poser vous-même la question à un revenant, la prochaine fois qu'il vous sera donné d'en voir un. Kamala était extrêmement curieuse. Elle demanda, sans plaisanterie, « Avez-vous jamais vu un vrai revenant ?»«
Un vrai, non. Mais j'ai vu des quantités d'imitations. L'article authentique est rare. »
Comme la veille, le vapeur s'arrêta pour la nuit à un de ses points habituels d'atterrissage. Kamala venait de décider qu'elle ferait le souper avec les légumes qui lui restaient, quand Ramesh vint lui dire qu'il avait fait un trop bon repas à midi pour avoir faim maintenant. « Ne voulez-vous absolument rien ?» demanda-t-elle avec regret. « Pas même un poisson frit ?»«
Rien, merci, » répondit-il brièvement, et il s'éloigna.
Du coup, Kamala fit une part monstre pour Umesh. Les travaux de son petit ménage, portés au fil du courant, étaient terminés pour la journée. La lune nouvelle donnait maintenant de tout son éclat sur le fleuve et sur ses rives. Il n'y avait pas de village proche, et la belle nuit lumineuse semblait veiller, comme une dame à qui son amant a manqué de parole, sur la verte étendue des rizières. Sur un tabouret, dans son petit bureau à toiture de zinc, on pouvait distinguer sur la rive un petit employé tout desséché qui additionnait des chiffres à la lueur d'une lampe au kérosène. Kamala était venue rejoindre Ramesh dehors, mais il ne fit pas attention à sa présence et elle s'arrêta brusquement près du bastingage. La lune éclairait le visage du jeune homme et elle comprit à son expression qu'il était bien loin d'elle et qu'elle n'avait aucune place dans ses pensées. Il lui sembla voir s'élever entre elle et ce mari absent, l'esprit même de la nuit, semblable à une sentinelle géante, toute vêtue de clair de lune et les doigts sur les lèvres. Elle se glissa vers sa cabine, sans oser faire le moindre bruit, et frissonna en passant le seuil, consciente de son isolement et de son abandon. L'intérieur de la petite pièce décrépite lui parut s'ouvrir comme les mâchoires d'un monstre hideux. Mais quel autre asile pourrait-elle chercher ? Il n'y avait pas d'autre lieu où elle pût étendre son pauvre petit corps et fermer les yeux avec la certitude qu'elle était chez elle. En passant la porte, elle fit tomber contre sa malle de fer le parapluie de Ramesh, causant ainsi un grand tapage. Éveillée de sa torpeur, Ramesh se secoua et vint à elle. « Est-ce vous, Kamala ? Je vous croyais au lit depuis longtemps. » Peut-être vous sentez-vous un peu nerveuse, mais je ne resterai pas beaucoup plus longtemps dehors, et je laisserai ouverte la porte de communication.
Je n'ai pas peur, répondit-elle avec hauteur, et fermant la porte, elle se jeta sur son lit et ensevelit son visage dans un châle. Elle se sentait trop seule, trop privée de toute compagnie humaine, et tout son être se révolta. Si elle ne devait pas avoir un protecteur ou être sa propre maîtresse, la vie serait insupportable.
Au milieu de la nuit, elle se releva et sortit, regardant le rivage. Pas un signe, pas un son ne révélait la présence de l'homme nulle part. La lune allait disparaître, et les étroits sentiers entre les moissons étaient maintenant invisibles. Mais elle se fatigua les yeux à essayer de les deviner. Combien de femmes ont porté de l'eau par ces chemins, chacune ne pensant qu'à son propre foyer, se dit-elle. Le foyer. Son cœur bondissait à cette pensée. Si seulement elle avait un petit foyer quelque part. Les bords du fleuve s'étendaient à l'infini ainsi que sur sa tête l'immense voûte du ciel. Le ciel et la terre lui étaient tous deux également hostiles dans leur immensité. Toute cette étendue illimitée,
était désespérément insuffisante au faible atome humain, parce que tout ce que désirait la pauvre enfant était un petit foyer. Elle tressaillit en s'apercevant qu'elle n'était plus seule. « C'est seulement moi, mère, » souffla la voix du mèche. « Mais pourquoi ne dors-tu pas ?» Et brusquement, les larmes inondèrent ses yeux et coulèrent à lourdes gouttes. Elle se détourna pour les cacher au petit garçon. Un nuage chargé d'eau parcourt le ciel jusqu'à ce qu'il rencontre un autre compagnon de vagabondage tel que la brise. Alors il ne peut plus retenir son fardeau. Un mot de sympathie du pauvre orphelin abandonné fit pleurer Kamala, qui essaya de parler mais en vain. Les sanglots l'étouffèrent. Tout en détresse, Umesh chercha quelque moyen de la consoler. Après un long silence, il dit enfin « Vous savez, mère, il reste encore 7 annas sur 7 roupies. » Le torrent des pleurs en fut arrêté. Elle sourit et elle aima cet enfant pour cette remarque sans à propos. « Garde bien précieusement la monnaie et maintenant trotte vers ton lit. » La lune plongeait derrière les arbres. Cette fois, les yeux fatigués de la jeune femme se fermèrent sitôt qu'elle eut posé sa tête sur l'oreiller. Au matin, l'appel impérieux du soleil la trouva encore plongée dans le sommeil.
À présent, voici un autre très court extrait, intense comme un poème. Après de nombreuses péripéties, Kamala a enfin appris qu'elle était en fait la femme du docteur Nalinasha, homme de grande valeur morale et spirituelle. Elle vit dans sa maison, apprend doucement à l'aimer, mais de toute façon ne l'aimait-elle pas déjà, puisqu'il était son époux de par la loi. Si elle écoutait les modestes élans de son cœur, elle resterait là à le servir, sans lui révéler qui elle est, et ne demanderait rien d'autre que d'être dans son rayonnement. Mais des personnes très respectées d'elle lui conseillent d'avoir le courage de dire la vérité au docteur Nalinasha.
Revenue dans sa chambre, elle se plongea dans une longue rêverie, se demandant ce que Nalinasha pensait d'elle et pourquoi il l'avait ainsi à 2 reprises regardée. Quand elle se coucha ce soir-là, elle avait résolu de saisir la prochaine occasion le lendemain pour lui dire son secret, quelles qu'en dussent être les conséquences. Et de fait, tôt levée, elle alla d'abord se baigner, rapportant du fleuve sacré une petite jarre d'eau destinée à arroser le bureau de Nalinasha. Mais contrairement à ses habitudes, il y travaillait déjà quand elle entra. Poussée par un brusque mouvement intérieur, elle vint s'agenouiller devant lui et, de sa tête inclinée, toucha ses pieds. Puis, se relevant, elle se tint debout, semblable à une statue, sans même s'apercevoir qu'il la contemplait d'un regard intense. Inconsciente de toutes les choses extérieures, émue par une inspiration soudaine, ce fut sans trembler qu'elle dit « Je suis Kamala ». Le son de sa propre voix parut rompre le charme qui la dominait et elle frissonna de tous ses membres, laissant tomber sa tête sur sa poitrine sans pouvoir faire un pas, bien que la fuite lui parut le seul salut possible. Elle avait dépensé toute sa force dans ces 3 mots et il ne lui en restait plus pour supporter sa honte. Elle était à la merci de Nalinasha et ne dépendait plus que de sa miséricorde. Lentement, il porta les mains de la jeune fille à ses lèvres et lui dit « Je le sais, tu es Kamala. » Il l'attira et passa autour de son cou une guirlande que la veille elle avait tressée en murmurant « Inclinons-nous devant lui. » Et tandis que tous deux, côte à côte, touchaient de leur front la blancheur pure du pavé de marbre, le soleil du matin vint bénir leurs têtes inclinées. Se relevant, Kamala se prosterna une fois de plus devant Nalinasha. Toute sa pénible timidité l'avait abandonnée. Sa joie n'avait rien d'exubérant, mais elle se sentait envahie par le calme d'un apaisement infini. Chaque recoin de son cœur était rempli du sentiment absolu de son dévouement, et il lui parut qu'elle offrait, avec l'encens de son adoration, la création tout entière. Tout à coup, des pleurs jaillirent de ses yeux, surgis d'une source inconnue. C'étaient des larmes de joie qui emportaient jusqu'au souvenir des chagrins passés. Il ne lui parla pas davantage, et après avoir écarté du jeune front les cheveux encore humides,
il quitta la pièce. Kamala se rendit à ses travaux journaliers comme s'ils concernaient le service d'un dieu. La tâche la plus infime était pour elle une prière, montant au ciel sur les ailes de l'allégresse. À la tombée du jour, Nalinaksha entra chez elle avec une brassée de grands arômes. « Kamala, dit-il, mets ces fleurs dans l'eau pour les garder fraîches. Ce soir, nous irons tous deux demander la bénédiction de notre mère. » « Mais, dit-elle timidement, je ne vous ai pas dit... » « Je sais tout. » Elle se voila le visage.
Vous venez d'entendre des extraits du roman « Le naufrage » de Tagore, présenté par Alain Bosquet et Harold Portnoy, élu par Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie Française.
C'était Collège des Ondes, Nouvelles étrangères, Rabindranath Tagore, émission d'Alain Bosquet et Harold Portnoy, première diffusion sur France 3 Nationale le 24 avril 1962. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.